CFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous dans ce MAG sur CFM Radio. On vous proposera le détour par la forteresse de Penne avec, à partir de ce samedi, des démonstrations de tours à bois médiévales, des initiations à la vannerie, des ateliers taille de pierre, des démonstrations de forge, de l'armement médiéval, le tout donc dans un chantier médiéval à la forteresse de Penne qui ouvre pour ses nocturnes, pour ses visites guidées, visites théâtralisées, visites en costume l'été à la forteresse. Tout le détail nous sera proposé par la guide conférencière qui s'occupe de ce château médiéval qui est privé, qui est en cours de restauration et donc on va pouvoir visiter tout cet été. On vous donnera tout le détail après, puisqu'on est mardi. La chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques. On retrouve à Caylus Victor Le Guenec.
Bienvenue sur les coups de cœur des médiathèques du QRGA. Et aujourd'hui, on cause temps envolé pirate et crocodile, avec non pas une œuvre, mais un personnage, présent sous différentes formes dans notre culture populaire, qu'elle soit théâtrale ou romanesque, cinématographique ou dessinée, en jeu de société et autres vidéoludismes. Et bien entendu, capitalistiquement dérivé sous toutes les formes possibles et imaginables. Il s'agit, je vous le donne en mille, de Peter Pan. Personnage emblématique, figure incontournable, à la fois célèbre et méconnue. Alors aujourd'hui, on fait un petit point sur le personnage et ses occurrences. Peter naît en 1902 sous la plume de James Matthew Barrie. D'abord, petite apparition dans le roman Le Petit Oiseau Blanc, pour véritablement éclore et se développer dans la pièce de théâtre Peter et Wendy, au succès immédiat et colossal, qui poussera l'auteur à en faire un roman plus étoffé. James Matthew Barrie, 9e et avant-dernier enfant d'une famille d'ouvriers, grandira sous l'influence des histoires racontées par sa mère. Mère qu'il essaiera de consoler de la perte de son fils préféré. Il portera le deuil à sa place en essayant de remplacer son frère à ses yeux. Le tout en recréant des histoires, souvent niant le temps qui passe, par culpabilité du survivant, pour se concentrer sur l'enfance. En 1897, il se lie d'amitié avec la famille Llewelyn Davis et leurs 4 gamins, dont il deviendra le tuteur. Et c'est pour eux que James créera le personnage de Peter Pan, mioche pour le moins taquin et espiègle, se posant comme protecteur de l'enfance, et non pas des enfants. La nuance est subtile, mais plus qu'importante. Tout cela en font une haine farouche, et là, je fais mise aux adultes et à leurs dérives autoritaires. À Neverland, une légende dit que si l'on respire très fort, des adultes meurent. Alors Peter Pan s'amuse à halter le plus vite possible pour en tuer le maximum. Un charmant bambin. L'histoire originelle commence un vendredi soir. Venu récupérer son ombre, abandonné lors d'une précédente visite chez la famille Darling, Peter se trouve face à Wendy. Et avide des histoires qu'elle pourra lui raconter et du rôle de mère fantasmée qu'elle pourrait accomplir pour les enfants perdus, qui, de temps en temps et au grand désespoir de Peter, se rappelle avoir eu un jour une mère. Il aperçoit alors de le suivre jusqu'au pays imaginaire, qui, en passant, est une traduction certes nécessaire, mais qui perd de son sens de Neverland, le pays de jamais. Alors commencent de formidables aventures auxquelles sont mêlées des sirènes, des fées, des brouges avec Lily la tigresse, mais surtout les pirates et leur chef, le capitaine Crochet, qui n'a jamais pardonné à Peter de lui avoir coûté la main avant de la jeter en pâture avec son réveil au crocodile, qui le poursuit depuis sans trêve. Ça, c'est le décor. Mais derrière le ton enfantin se cache la véritable monstruosité d'un personnage qui n'a aucune morale ni aucun remords, oubliant systématiquement son passé, n'apprenant donc jamais rien, oubliant ses torts, ses amis, les enfants perdus, Wendy. Un conte pour enfants ? Peut-être, mais certainement pas un conte enfantin. Car c'est l'histoire d'un gamin qui se crée son armée d'enfants soldats pour affronter l'image de l'adulte, de la vie et donc de la mort. On s'imagine souvent Peter récupérer les enfants tombés du berceau ou abandonnés. Alors oui, il y en a, mais régulièrement, c'est lui qui les fait se perdre pour mieux les retrouver. Et quand les enfants grandissent, il les tue. S'ils deviennent trop gros pour se glisser discrètement dans le repère des pirates, alors il les modifie. Et d'ailleurs, pour éviter cela, les affame régulièrement en leur demandant d'imaginer les repas qu'ils n'ont pas. Scène que l'on retrouve dans l'adaptation de Spielberg. Il est profondément égoïste et a perdu la notion de temps en étant bloqué depuis des années sur cette île. L'île de Neverland est dangereuse. Et l'on peut classer par ordre de grandeur les dangers. D'abord, en bas de l'échelle, les animaux qui errent dans la forêt. Les peaux rouges, tantôt alliés, tantôt ennemis de Peter, viennent ensuite les sirènes, puis Clochette, et enfin le capitaine Crochet et ses pirates. Et, pardon, j'en oublie un, qui plane au-dessus des autres. Loin, Peter lui-même, le personnage qui maintient le chaos sur l'île pour son seul amusement. Car quand il n'est pas là, et là, je cite, « Pendant son absence, les fées allongent leur grasse matinée. Les peaux rouges festoient, les enfants perdus et les pirates ne songent pas le moins du monde à se faire la guerre. Mais à son arrivée, tout le monde reprend son rôle. » Peter est l'image même du conflit. Pendant les batailles avec les Indiens, il change régulièrement de camp, causant autant de morts chez les Indiens que chez les enfants perdus. Et sa haine réciproque pour le capitaine et les pirates suggère qu'ils sont potentiellement des anciens enfants perdus qui ont fui et grandi avant que Peter ne les tue et qui lui en veulent inconsciemment, tout en ayant oublié pourquoi. Le pays imaginaire a ses conséquences. Et Peter connaît lui-même qu'il n'a pas le moins de souvenirs de ses enfants morts, enfuis, perdus à jamais. Il oublie son histoire. Il ne sait rien sur lui-même et c'est absolument terrible. Il oublie tout le monde et ceux qui grandissent l'oublient aussi. C'est une histoire où cette notion de mémoire et de gommage de ce qu'il s'est passé est d'une tristesse effroyable. Mais ça rejoint finalement la question du passage de l'état d'enfance à l'âge adulte. On oblitère l'enfance, on gomme l'enfance. Quand on devient adulte, on mûrit. Ce que Peter ne fait pas. Il est l'inconséquence. À la fin du roman, il a tout oublié. Wendy, Clochette, le capitaine. Et s'en moque éperdument. Bien. On a planté l'atmosphère. Voyons les différentes adaptations, qui ont bien sûr apporté une vision autre du personnage et de son ambiguïté. D'abord la version de Disney, celle qui, aujourd'hui encore, reste la plus présente dans l'imaginaire collectif, qui en fait un gamin, certes farceur, mais bienveillant, le fantasme d'une jeunesse à jamais perdue. Si l'animation en elle-même est somme toute assez réussie, le fond s'éloigne beaucoup du Peter originel, pour offrir toutefois un divertissement daté, certes, mais tout à fait regardable. Spielberg, déjà cité plus haut, en a fait une suite cinématographique, Hook, ou La Revanche du Capitaine Crochet, où l'on retrouve Peter devenu adulte, qui, comme de bien entendu, a tout oublié de son histoire, et qui vit à Londres avec ses enfants, kidnappés par le capitaine Hook. C'est une vision plus moderne de Peter, plus positive, même si assez noire, par moments superbement réalisée, et au début en tout cas assez fidèle au personnage, qui ne s'intéresse qu'à lui-même en ne s'occupant de ses propres enfants que quand l'envie lui vient. Avec un Robin Williams en forme dans le rôle de Peter, Julia Roberts nous joue une clochette au sourire gigantesque, pour le moins gentil, et dans ce cas-là, bien éloignée du personnage de Barry, extrêmement jalouse et prête à tuer toutes les filles qui s'approchent de notre héros. Et enfin, un capitaine Crochet campé par Dustin Hoffman en bonnet du forme. Ça virevolte dans tous les sens, les références à l'œuvre de départ sont pléthores et tout à fait bienvenues à revoir sans hésitation. Plus tard, arrive en France l'adaptation de Loisel, en une série de BD de 6 tomes, où cette fois on prend connaissance du passé de Peter, avant l'île, dans les rues de Londres, puis ses débuts. Et si Loisel a dit surtout s'inspirer du Disney, les personnages sont très fidèles au roman, à Peter, absolument machiavélique, qui voue une haine farouche envers les femmes, les adultes, et presque tout ce qui l'entoure. Ici, Peter n'est pas encore Pan, qui est un autre personnage. Le capitaine n'est pas encore Crochet, car pourvu de ses deux mains. Cette adaptation est d'une noirceur rarement égalée, c'est profondément dur et triste, extrêmement violent physiquement et moralement. Peter, dans la BD, est même indirectement associé à Jack l'éventreur. On le voit en même temps qu'un autre éventreur potentiel sur les lieux des crimes, armé ou juste après, les mains en sang. Peter tue. Il ne s'en fait pas plus que ça, sachant pertinemment qu'il oubliera. La BD est magnifique, le dessin de Loisel toujours aussi accrocheur, et en reprenant les codes graphiques de l'univers de Dickens, il nous plonge tout de suite dans son monde non pas féerique mais monstrueux. Aucun personnage ne trouve grâce aux yeux de Loisel, et somme toute, ça complète parfaitement l'histoire de base, à lire et relire sans hésitation. Une autre BD vient de paraître sous la plume et les pinceaux de Munuera, qui nous narre, elle, la première adaptation de Peter dans les jardins de Kensington. BD qui va venir compléter cet univers riche, sordide, espiègle, fantastique, qui reste et restera à jamais un des contes horrifiques les plus fantasmés par la culture populaire. Alors si vous voulez plonger avec les sirènes, voler avec Peter, mourir avec le capitaine ou les enfants perdus, venez vite dans votre réseau des médiathèques favoris. Empruntez le roman de Barry en livre ou en audio, le film Hook de Spielberg ou celui de Disney, ainsi que les deux BD, le Peter Pan de Loisel et le Peter Pan de Kensington par Munuera. Venez redécouvrir ce monde, réexplorer l'île imaginaire, peut-être aussi ruiner vos souvenirs d'enfance, mais vous ouvrir à un tout autre univers. Car, je vous assure, nous n'avons fait qu'effleurer la profondeur du personnage. Sur ce, je vous laisse, et surtout, grandissez.
La chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques, c'est tous les mardis, depuis CFM Quélus, avec Victor Le Guénec, qu'on retrouve donc mardi prochain. Ou en podcast sur le site de CFM Radio.
plane, think I'm a gangster too. Call me a lieutenant, I'm a boss regnant, you know what I'm to? Play me again, use your full brain, I've got some feelings too. Now that the girl's mine too, she's in red wine, you gotta meet her too. Be like a man, taking your brain, she's got a sister too. Can I call you up, man? Good things, no blame. Drone, I wanna do. Banging again, beautiful game, and what she says I'll do. I thought it would never, never happen again. There's joy to win, and I love this game. I thought it would never, never be that intense. Love's giving me now a second chance. Addicted to joy, a time to love and that's all. Addicted to joy. Addicted to joy, a time to love and that's all. Addicted to joy. Then don't wanna wait and see. TB the man, big bing bing, happy I like to be. Sweet like a mango, needing a bongo, humping up with me. Bragging around, TB's in town, here for fun you see. I'm socially tight, totally bright, teaming up with me. Pleasure line and back in the game, be as you wanna be. Crap on street train, working in chain, profile energy. Waving your hands, forgetting your lands, but what you want I'll be. I thought it would never, never happen again. There's joy to win, and I love this game. I thought it would never, never be that intense. Love's giving me now a second chance. Addicted to joy, a time to love and that's all. Addicted to joy. Addicted to joy. A time to love and that's all. Addicted to joy.
FM Kélus, le mag.
De retour dans ce mag où on fait un crochet par le château de Penn. Il est là, juché tout en haut de la colline depuis le 12e siècle. Et il célèbre ses 15 ans d'ouverture au public. Cet été encore, tout un programme a été concocté par l'équipe, notamment par la responsable du site, Lise Albaret, qui est avec nous par les fils du téléphone. Bonjour Lise.
Bonjour.
Alors c'est un château qui appartient à un particulier, je crois, qui a eu droit à tout son programme de fouilles archéologiques, qui va proposer donc des visites théâtralisées, des spectacles de feu, des visites pour petits et grands. On a un chantier médiéval qui est en cours tous les étés. On aura plein de démonstrations dont on va parler. Mais alors peut-être recontextualiser, il est comment ce château depuis le 12e ?
Alors, il est effectivement perché sur cet éperon rocheux dans les gorges de l'Aveyron, donc il culmine à 120 mètres au-dessus de la rivière Aveyron. Et au départ, c'est pas le château tel que l'on le visite aujourd'hui, c'est une succession de tours qui sont là effectivement au XIIe siècle, mais l'occupation vraiment médiévale du rocher remonte probablement autour de l'an 800, entre l'an 800 et l'an 1000. Donc ça fait quand même voilà, plus de 1000 ans que le site est occupé, au départ par les seigneurs occitans de Peine. Puis au XIIIe siècle, il y a la croisade contre les Albigeois qui va complètement bouleverser le système féodal occitan. Et donc le village primitif, on va dire, qui se trouvait sur l'éperon rocheux, va être détruit en partie pour construire sous la tutelle, on va dire, du nouveau comte de Toulouse, qui est frère du roi, frère de Louis IX, qui s'appelle Alphonse de Poitiers. Et donc lui va lancer la construction de la forteresse de Peine qu'on visite aujourd'hui. Et il va y mettre une garnison militaire.
Quand on dit forteresse de Peine, c'est ce qu'on voit en fait d'en bas, c'est-à-dire bah, tout simplement des grands murs d'enceinte. Hein. En fait, si on passe par-dessus, eh ben, c'est une succession, comme vous l'avez dit, avec des cours, des tours. C'est pas qu'un mur.
Oui. Non, voilà, c'est vrai que quand on est dans le village, on aperçoit juste un petit bout. On aperçoit l'éperon est, en fait, où se trouvait l'ancienne église castrale. Mais les vestiges de la forteresse sont vraiment bien plus étalés que cela. Donc aujourd'hui, on visite cette forteresse qui a été bâtie à la fin du XIIIe siècle et puis fortifiée davantage au XIVe suite à la guerre de Cent Ans. Et donc là, aujourd'hui, ce sont des vestiges qui sont aménagés. Donc il manque certaines parties automatiquement qui ont été détruites, qui n'ont pas été restaurées. Le château a été abandonné au XVIIe siècle. Les villageois ont pu, sous l'autorisation royale, récupérer des pierres pour reconstruire les maisons qui avaient souffert des guerres de religion au XVIe siècle. Et donc on a ce manque, on a ces lacunes qui ont été complétées en partie par de la sicortaine, par du métal, dans l'enceinte même de la forteresse pour accéder aux différents niveaux, en haut des tours, avoir les points de vue, et aussi pour la construction du musée qu'on a ouvert l'année dernière.
Il y a eu des fouilles archéologiques sous ce château.
Il y a eu des fouilles, il y a eu plusieurs campagnes de fouilles sur plusieurs années, hein, quasiment 15 ans de fouilles archéologiques, alors pas non-stop, hein, c'est des campagnes de 3 semaines en général qui se succèdent. Et ensuite, grâce à ces fouilles archéologiques, on a trouvé des objets qui nous permettent de comprendre un petit peu la vie sur cet éperon à travers les siècles. On est remonté donc jusqu'à l'an 1000, et bien sûr on a trouvé des objets un peu de toutes les époques, souvent des bouts d'objets aussi, donc le challenge c'est de faire des sortes de puzzles avec ces petits bouts qu'on retrouve, et donc tout ça est exposé dans le musée qu'on a ouvert l'année dernière.
Il y a un chantier médiéval qui est en cours tous les étés.
Oui, pareil, depuis 15 ans, en fait vraiment les 15 ans d'ouverture au public cette année en 2025, on a ouvert en juin 2010, pardon. Et donc depuis, le chantier médiéval aussi a lieu 6 semaines hein, tous les étés. L'idée, c'est aussi de montrer aux personnes, aux visiteurs, comment on construit ou on restaure un château au Moyen-Âge. Donc la partie restauration moderne, on le fait le reste de l'année. Et l'été, pour qu'un plus grand public puisse observer ce travail, on le fait vraiment sur ces 6 semaines. Donc là, cette année, c'est du 12 juillet au 24 août, où on a des tailleurs de pierre professionnels qui interviennent sur plusieurs missions de l'été, ou certains murs, certaines ouvertures, certains bancs en pierre, des choses à refaire petit à petit, comme autrefois.
On peut venir donc visiter ce château, cette forteresse de Peine à partir de ce dimanche 12 jusqu'au 24 août, passer l'été à la forteresse. On a tous les jours des démonstrations d'armement médiéval. On a des démonstrations d'armement, de tenues de combat, de forge, de taille de pierre, d'initiation à la vannerie ou démonstrations de tour à bois médiéval. C'est comme si on y était à cette époque-là. Hein.
C'est ça, l'idée sur ces 6 semaines de l'été, c'est de plonger un petit peu les visiteurs dans le passé, essayer de refaire vivre et vibrer un peu les pierres du château. On est ouvert toute l'année à la visite, mais l'été, voilà, on met un peu l'accent sur ces métiers d'autrefois. Donc les intervenants sont tous des professionnels, les vanniers par exemple, c'est leur travail toute l'année. Mais là, ils viennent avec nous l'été et ils expliquent l'évolution de leur travail, comment ça se passait au Moyen-Âge, et les gens effectivement peuvent être initiés et tenter de tresser un peu l'osier.
Et puis il y a aussi des visites, alors là, théâtralisées ou pas, des visites en soirée, agrémentées de contes ou de visites au flambeau. Il y a tout un panel de visites possibles.
Tout à fait. Donc, on a des visites guidées en juillet-août tous les jours, hein, tous les après-midi. Et les dimanches, c'est spécial, c'est des visites théâtralisées. Donc, toujours à 15h et à 17h, on a ces visites qui sont guidées par plusieurs guides conférenciers qui vont mettre en scène, qui vont théâtraliser une période historique liée au château. Donc, ça peut être période guerre de 100 ans, plutôt période de croisade albigeoise. Voilà, ça dépend un petit peu des thématiques. Donc, ça change selon les dimanches où l'on vient. On a des visites tout à fait de contes et légendes sur les mercredis en nocturne. Et la grande nouveauté cette année, en plus des visites guidées qui sont proposées en journée et en soirée les mercredis, on a ce qu'on appelle les soirées PNR. Donc, c'est-à-dire que les 6 lundis de ces fameuses 6 semaines de l'été, donc 3 lundis en juillet, 3 lundis en août, on fête vraiment un petit peu les 15 ans d'ouverture du château au public en faisant des soirées thématiques où les personnes peuvent profiter du site qui est ouvert jusqu'à la nuit. Et une soirée spéciale chaque lundi. Donc ça va du jeu géant en bois au spectacle de feu, à l'astronomie, on fait du cinéma plein air, une visite guidée mais chantée, et même une soirée blind test. On tente même de sortir un peu du cadre médiéval pour essayer aussi de toucher un public qui pourrait être différent et qui pourrait être intéressé à participer à ce type de soirée en dehors de la partie médiévale.
Des soirées qui sont pas forcément sur réservation, qui sont payantes. On peut se renseigner, oui, en faisant le détour par votre site internet. Hein. On tapote dans son moteur de recherche Château de Peine. Et sinon, pour les visites, elles sont faites par des guides de la GIT. Vous pouvez présenter la GIT ?
Oui, alors les guides de la GIT, donc c'est l'association des guides interprètes du Tarn, donc ce sont tous et toutes des guides conférenciers. Je fais partie aussi de cette association. Après, moi, maintenant, je travaille directement pour le château, mais ça m'arrive aussi d'être guide pour cette association dans d'autres villages des environs. Et donc, ils interviennent depuis l'ouverture au château du public. Ils sont là en soutien sur l'été pour faire ces visites guidées quotidiennes. Donc, c'est pour mettre en valeur aussi le métier de guide, pour insister sur le fait qu'on ait fait des études spécialisées pour le guidage. On a une carte qui prouve qu'on a fait ces études-là dédiées. Et donc, c'était important pour nous aussi au château de travailler avec des guides professionnels.
Allez, Lise, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous faire une petite visite via nos oreilles? Une fois qu'on a monté toutes les marches, on a bien souffert et qu'on est arrivé tout en haut, là, donc au château de Peine, en quelques mots, qu'est-ce qu'on voit?
On voit, donc déjà on domine les vestiges de la forteresse. Une fois qu'on est monté tout en haut des tours, on voit les traces de cette forteresse qui a été construite vraiment le long du rocher au bord de la falaise pour essayer de gagner un maximum d'espace. Et on domine bien sûr les paysages des environs, donc les gorges de l'Aveyron, les collines et les pêches, les puèches sur les côtés. Au loin, on a les abords des forêts accolées à la forêt de la Grésigne, qui est quand même aussi très importante sur notre territoire. Donc on domine vraiment à 360 degrés tout autour de la forteresse. Et le village, bien sûr, qui est en contrebas, où on aperçoit les toits des maisons et de l'église et les petites ruelles qui déambulent.
Et juste à côté de nous, on voit la taverne aussi. Hein.
Ah, il y a la taverne aussi, oui, avec la terrasse panoramique qui est bien agréable l'été, qui est ombragée et qu'on ouvre certains après-midi de la semaine.
Alors, les tarifs, rapidement.
Alors, les tarifs pour l'été à la forteresse, c'est par exemple 9,50 € pour les adultes. Les enfants de moins de 5 ans, c'est gratuit. Et ensuite, les enfants de 5 à 16 ans, c'est 4,50 €. Mais on a des tarifs, des forfaits famille, on a aussi un forfait tribu d'amis, où on offre une entrée adulte s'ils viennent à 6. Donc, on essaie de s'adapter aussi au plus grand nombre et de proposer des forfaits selon qui vient et à combien de personnes.
Des visites guidées, costumées, théâtralisées, les nocturnes du lundi avec les soirées plein air et tout un programme d'animation diverses. On a les nocturnes du mercredi avec des contes et légendes. On peut découvrir le chantier médiéval du dimanche au jeudi, donc assister au chantier de restauration de la forteresse avec les tailleurs de pierre, les maçons professionnels qui utilisent des techniques médiévales de construction sous nos yeux. On a tout un tas d'ateliers armement médiéval, forge, large, taille de pierre, initiation à la vannerie, le tout au château de Pennes, là-haut, tout en haut. On peut retrouver plein d'informations sur votre site internet, hein, château de Pennes. Mm-hmm. Je ne me rappelle pas le nom du site.
C'est château-pennes.com, tout simplement.
Et on peut venir donc à partir du 12, là, jusqu'au 24 août, pour passer donc l'été à la forteresse. Tout un programme qui nous était aujourd'hui délivré par vous-même, responsable du site, hein, Lise Albaret. Vous êtes aussi guide conférencière. Merci beaucoup, Lise.
Mais merci à vous pour le temps accordé.
Et merci à vous de nous avoir suivi la suite de ce mag. Ce sera depuis CFM Montauban et ce sera après les infos.